Salman Rushdie, génie autoproclamé. La parution tonitruante du dernier livre de Salman Rushdie suscite déjà des réactions en tous sens, et c'était évidemment prévisible. Sans cela, sa parution en de multiples langues aurait-elle été aussi précisément orchestrée? Les grands médias auraient-ils été aussi tactiquement invités à rencontrer l'auteur, selon des quotas bien calculés et dans des conditions de discrétion jalousement garanties? L'information sous toute forme aurait-elle été aussi disciplinairement répandue? Bref, aurait-on eu affaire à une aussi gigantesque opération de marketing? Comme point de comparaison, seul le lancement du premier roman de Mrs. Rowling pour adultes pourrait être invoqué. Or, en l'occurrence, il ne s'agit vraiment pas du même type de produit, entre guillemets, bien entendu. Le livre de Rushdie n'est pas un ouvrage d'imagination. Il est le témoignage d'une unique expérience dans l'histoire des lettres, celle d'un écrivain frappé d'une menace de mort, diffusée, selon l'usage d'aujourd'hui, instantanément aux quatre coins du monde, désigné comme l'ennemi public numéro un par une instance religieuse dotée d'une légitimité reconnue par une vaste communauté. Cette épreuve, en laquelle l'auteur voit à juste titre un cauchemar dont il est probable qu'il ne s'éveillera jamais, contient évidemment pour un homme de lettres une provocation irrésistible à la coucher sur le papier. La singularité ici est qu'il donne à lire pratiquement sans délai ce qu'il a enduré, qu'il ne le consigne pas dans un journal intime dont il prendrait la précaution qu'il ne soit révélé que plus tard, voire même à titre posthume. Souvent, des publications post-mortem maintenues sous le sceau du secret révèlent ainsi sur un personnage tant d'éléments inédits qu'ils forcent à le considérer sous un angle neuf. Si cette décision est accompagnée d'un délai de divulgation, elle permet de ménager d'autres personnes encore que l'auteur lui-même qui peuvent n'avoir pas été consultées quant à l'opportunité de cette publication. Ici, rien de pareil. Rushdie donne sans vergogne à connaître non seulement les aléas de sa vie la plus privée, mais aussi les noms de ceux qui n'ont pas pris parti pour lui, tenus pour des lâches ou des simples d'esprit, Madame Thatcher, pour ne citer qu'elle, que l'identité de ceux qui l'ont soutenu, qu'il s'agisse de gloires internationales des lettres, parmi lesquelles quelques prix Nobel réels ou potentiels au moment des événements, certains de ses gardes du corps qui se trouvent élevés au rang d'ange gardien de sa personne, très peu de gens ordinaires parmi les innombrables lecteurs de ses livres, relégués au rang de communs des mortels, dès lors indigne d'être pris en considération. La gêne que la parution de Joseph Anton inspire se situe dans cette forme d'élitisme dévoyé, qui trouve son apogée en couverture du livre dans la mention, à égalité de police de caractère, du nom de l'auteur et de son nom d'emprunt, lui-même emprunté à deux écrivains qui hébergent depuis longtemps le panthéon littéraire universel, puisque Joseph renvoie à Conrad et Anton à Tchekhov. Excusez du peu. Ces remarques permettent de mieux formuler le malaise que l'on peut ressentir au contact de l'ouvrage. D'une part, on a affaire à un cas extrême de pipolisation, voulu par le protagoniste lui-même, qui s'est pourtant maintes fois plaint de devoir sa renommée moins à la qualité de son œuvre, qui est indéniable, qu'à l'appel au meurtre dont il a fait l'objet. De l'autre, on assiste au processus de plus en plus répandu et auquel l'intéressé sacrifie lui-même de l'accession prématurée au statut de grand écrivain avec un T soudant le syntagme figé. Il ne fait pas de doute que Salman Rushdie est un auteur exceptionnellement talentueux. Mais la plus perverse conséquence de la fatwa qui l'a frappé résulte hélas de ce qu'au tribunal de la postérité, ils ne doivent de fait sa renommée à la vindicte d'un ayatollah plutôt qu'à l'excellence intrinsèque de ses écrits, injustice dont il se protège non sans vanité, en se propulsant lui-même dans le cercle très clos des gloires littéraires d'hier et d'aujourd'hui.